France Culture.
1, 2, 3, pas.
Bonjour le Book Club. Book Club.
Ok.
Book Club.
Ouais. Avant même de sauver le monde, je crois que la poésie, elle sauve le poète.
Bonjour le Book Club. J'ai pas parlé.
Il écrit, ou elle écrit, ou j'écris, parce que ça représente une sorte de manuel de survie à la panique intérieure. Et paradoxalement, elle a plutôt presque disparu dans les moments les plus douloureux. On se rend compte là vraiment que la poésie ne sauve pas et on entre dans le silence. Alors que la poésie, pour moi, est la traduction du silence.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Des mots sur scène, aujourd'hui dans votre book club, des poèmes dans les livres, bien sûr, mais surtout en dehors des livres, des voix, des textes parlés, des textes projetés, performés, la percussion des mots dans les corps. Nous recevons deux autrices pour leur recueil respectif, mais aussi pour qu'elles nous parlent de la scène de poésie actuelle, partout où l'on se lance pour dire ces mots devant d'autres, pour les écouter, cœur qui bat et cœur battant. Elsa Eskenazi et Aurélie Foglia sont nos invitées. Vers 15h50, nous retrouvons la journaliste Nicole Vulser. Elle éclaire pour nous un aspect économique du monde des livres et comme ailleurs, ça cherche le moindre euro d'économie partout, notamment dans l'immobilier. Alors Nicole nous parle édition et déménagement. Et en fin d'émission, on joue avec vous au grand jeu des pages musicales à chercher trouver de la musique dans les livres. Nous voilà ensemble pour une heure, Book Club scène ouverte. Bienvenue à toutes et à tous. Ici quoi ? Je fais tout dans le désordre en ce moment. Bonjour Elsa Eskenazi.
Bonjour Marie Richeux.
Soyez la bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de votre livre « Revivre » aux éditions du Bunker. Et bonjour Aurélie Foglia.
Bonjour.
Soyez la bienvenue. On va parler de votre livre « On » paru aux éditions Lansine. Ici, tout commence par un questionnaire lecture. On fait le portrait de nos invités en tant qu'ils ont été peut-être façonnés par les livres, les textes qu'ils ont rencontrés sur leur parcours. Mais j'avais un peu envie d'orienter ce questionnaire lecture pour peut-être laisser place à l'idée qu'on peut écouter des textes, qu'on peut s'en sentir spectateur, spectatrice. Et donc vous demander si vous vous souvenez de la première fois où vous avez participé en tant qu'auditrice à une scène ouverte de poésie.
Alors moi, c'est une expérience que j'ai fait assez récemment à Paris, notamment sur la scène ouverte de Mange tes mots. Et ça a été une vraie rencontre, cette scène ouverte notamment. C'est un lieu qui est très précieux, qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a accueillie de façon très safe, j'ai envie de dire. Et c'était une expérience très, très importante pour moi.
Et vous y étiez en tant qu'auditrice ou vous étiez en tant que performeuse ?
J'ai fait les deux, mais okay. En tant que performeuse, comme on dit, ça a été assez bouleversant, ouais. Et oui, voilà.
Alors, ça ressemble à quoi pour les gens qui n'ont jamais ni mis les pieds, ni même une moindre idée de ce que ça peut être une scène ouverte de poésie aujourd'hui ?
Bah, ça ressemble à un accueil, ça ressemble à de l'horizontalité, et ça ressemble à dire et être écouté. Et ça, c'est rare, en fait. Et ces espaces-là l'offrent. Voilà. Et après,
et
ça ressemble à 5 minutes.
Parlant. Si on se dit dans l'espace, c'est quoi par exemple ?
Bah, c'est une scène, un micro.
Mais c'est un bar, c'est un squat.
C'est dans un bar.
Dans un bar.
En tout cas, celle-ci, Mange tes mots, c'est dans un bar. C'est au Lou Pascal ou dans le 20e arrondissement à Paris.
Je suis concrète. Hein.
Ouais, vous avez raison. et c'est 5 minutes. Il y a un micro, une scène, un ordre
un peu,
de passage.
On est un peu en hauteur du coup ? Par rapport aux gens qui sont installés autour ?
Oui.
Ouais.
Un petit peu en hauteur. Et on est introduit, applaudi ensuite. Et voilà.
On est introduit, c'est-à-dire qu'on dit notre nom.
Non.
Merci de faire du bruit
Margot
pour
nous
Elsa
présente.
Eskenazi. Ouais.
Et présente aussi un peu notre texte. Et puis, on se jette.
Et quand vous aviez été à la place de celle qui écoute, c'était quoi ?
Bah, c'est génial aussi parce que c'est très riche. On entend plein d'univers, plein de sensibilités. Moi, je suis toujours très bouleversée par un être humain sur scène très simple. Et par un texte, et par une voix, c'est très émouvant, ça me relie, je sais pas, ça me relie. Il y a du commun dans ces espaces-là, dans cet espace-là. Il y a du collectif.
Plusieurs personnes enchaînent les performances.
Oui, aussi, du coup, il y a un rythme aussi. Et c'est joyeux, on boit des verres, c'est joyeux.
Est-ce que le soir où vous y étiez, ou ces soirs où vous y étiez, vous avez l'impression qu'il y a eu des gens de générations différentes? Où il y avait une sorte de classe d'âge un peu?
Je me souviens d'un moment où il y a eu un enfant. Et c'était très beau. Il a fait un très beau poème où il a décrit sa maison. C'était très court. C'était très beau. Et non, ouais, ça brasse pas mal d'âge, okay. Je trouve. Après, je suis pas experte. Hein. C'est neuf pour moi, cet univers-là. Mm. Mais c'est un univers précieux.
Et c'est lié à cet endroit-là, dans le 20e arrondissement de Paris. Vous ne sauriez pas dire, par exemple, dans d'autres lieux en France, à quoi ça pourrait ressembler?
Parfois, je vais à la Cagette, qui est aussi dans un bar, qui est une scène ouverte dans un bar à Paris, aussi dans le 20e, il me semble, où c'est un autre type d'organisation, c'est à main levée.
Faut pas s'inscrire, faut pas prévenir qu'on va venir.
Ouais.
Et à Mange tes mots, il faut dire « je vais venir, j'aimerais bien venir », dire
oui,
mon texte.
Il faut s'inscrire.
Ok. Et les personnes connaissent notre texte avant qu'on monte sur scène?
Non, mais elles nous demandent une petite présentation du texte.
Est-ce que vous vous souvenez, vous, la première fois que vous avez assisté à une scène ouverte de poésie, Aurélie Folia?
Alors, une des premières fois, je ne sais pas si ça peut vraiment s'appeler une scène ouverte, mais en tout cas, c'était dans le cadre de la Maison de la Poésie de Nantes. Et on avait créé ensemble, avec l'Université de Nantes, un pôle poésie qui était destiné à amener des poètes vers les étudiantes et les étudiants, et réciproquement, donc pour faire découvrir ce champ de la poésie contemporaine, envers lequel ils avaient des curiosités, mais ils étaient quand même un petit peu frileux. Voilà, donc... Là, je me souviens, c'était Charles Penquin et il lisait un poème, c'était des mots sur une page qui brandissait devant lui. Et tout d'un coup, il s'est mis à trouer la page avec sa langue qui bougeait comme ça à travers le papier. Et puis, il disait mes mots, mes petits mots chéris, papa va vous manger. Et il a réellement mangé sa feuille sous les yeux du public, absolument médusé. Donc là, voilà, je pense que c'est la différence entre lire son texte et le manger. Mmh. On est peut-être là dans la performance, hein, le saut accompli par la performance. Et donc, voilà, cette performativité, ce geste vers le public... qui ça lui fait quelque chose, quoi. Il est happé par quelque chose qui se passe sur scène et dans la poésie, dans la langue même.
Et ça, c'était en quelle année?
Oula, ça remonte.
Ça fait longtemps, ouais.
Et puis peut-être plus récemment, en atelier d'écriture, un étudiant qui a proposé une performance et donc il parlait des bruits en bibliothèque et c'était très drôle. Et il y avait beaucoup de silence, évidemment, dans son texte, puisqu'à la bibliothèque, évidemment, il faut surtout pas faire de bruit, c'est la consigne. Et donc il faisait exprès, enfin, il avait réussi à passer les portillons de la fac avec un marteau dans son sac, quand même. Je sais pas comment il avait fait. Il l'a posé sur la table devant lui.
C'est la grande efficacité de ces portillons.
Et puis des paquets de biscuits bien bruyants et croustillants qu'il agitait devant lui en disant ça fait du bruit les biscuits, et il les croquait de façon très sonore. Et puis après il est arrivé à la banane, alors évidemment la banane c'est moelleux, c'est silencieux, et puis après il s'est fâché contre les biscuits, donc il a brandi son marteau et il s'est mis à taper sur les biscuits de toutes ses forces, et les biscuits étaient en miettes et la table presque aussi, donc au grand dam de voilà du mobilier pour le coup de la salle.
Et des lieux comme en décrivait Elsa Eskenazia à l'instant, c'est-à-dire plus des lieux, des bars, des lieux du soir, des lieux où on vient pour partager sur scène 5 minutes, 3 minutes, 7 minutes de texte, est-ce que vous les fréquentez aussi?
Alors j'en ai entendu parler, je vais plutôt à la Maison de la Poésie de Paris, qui est un lieu de scène. J'avais participé à la Fabrique de Séverine Decourt avec un musicien, donc c'était vraiment une poésie qui rencontrait la musique, qui avait ce point de rencontre et ces phénomènes d'écho qui étaient extrêmement beaux à travailler ensemble avec les musiciens. Voilà, j'avoue que voilà, ce sont des lieux dont j'entends parler par des étudiantes, des étudiants, mais moi-même je m'y produis pas. Mais c'est vrai que je suis attirée par la scène, évidemment, et par les pouvoirs de l'oralité et par tout ce que ça implique de transmission et de présence aussi.
Oui, je pense qu'il y a quelque chose d'assez commun, mais d'ailleurs on y reviendra parce que c'est aussi quelque chose qui agite vos textes et vos recueils. L'idée que le texte aussi c'est un espace, que les mots ils sont matériels, qu'ils font des choses au corps, qu'ils font des choses à l'espace, que les dire ça n'est pas rien. Et j'avais l'impression que dans ce que vous disiez de votre émotion ou de la possibilité d'être secouée aussi par cette expérience-là, Elsa Eskenazi, c'est aussi faire l'expérience de qu'est-ce que ça fait de parler ou qu'est-ce que ça fait de dire un texte. Et en fait, La manière très simple dont vous le dites rappelle le vertige que c'est, quoi. Que ce soit de le faire ou que ce soit de le recevoir.
Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est une vraie question. Ouais. Qu'est-ce que c'est dire, écrire, le dire, et être écoutée ensuite. Qu'est-ce que c'est écrire là-dedans? Oui, oui, c'est une question qui, moi aussi, me fout le vertige. Ouais, ouais.
Qu'est-ce qui vous avait poussé à essayer, à vous dire, ah ben, je vais ajouter à l'expérience de l'écriture le fait d'aller sur scène et de partager avec les autres?
Je pense qu'effectivement, c'est une question d'espace. C'est qu'à un moment, ces mots-là que j'ai écrits, j'ai envie qu'ils soient dans un espace et dits dans un espace.
Et ça les changeait, par exemple? Ça en changeait leur sensation, peut-être même leur sens de les vivre comme ça?
Oui, ça change tout. Oui, oui, ça change tout. Je vois bien la différence entre quand c'est dans mon ordinateur et quand c'est dit. C'est pas du tout la même chose. Et puis, je peux mesurer la réception. Mais je pense que moi, mon grand rêve, c'est que mes mots soient dits par d'autres que moi. En fait, j'aime bien les dire, j'aime bien. Évidemment, mais j'adore faire l'expérience de d'autres personnes qui disent mes textes, parce que je vois à quel point ils se transforment sous mes yeux, que c'est plus du tout les mêmes rythmes, c'est pas du tout le même engagement, c'est ça change, ouais.
Oh là là, mais nous qui faisons ça d'habitude tous les jours, on s'était dit, ah ben non, on va les faire lire aujourd'hui, je sais pas. Mais peut-être que je vais changer d'avis et que c'est moi qui vais lire vos textes, on va voir. Mais en tout cas, vous allez le faire tout à l'heure. Je voudrais qu'on écoute la voix de Bernard Heitzig. C'est quelqu'un qu'on évoque souvent quand on parle de la poésie avec une dimension sonore, avec une dimension d'action, avec une dimension performée. Il utilise dans l'archive qu'on va écouter un terme qui est la poésie action, c'est ce qu'il choisit en 1963 comme s'il pouvait un peu modifier le mot poésie sonore qu'il trouve trop restrictif. Et il parle justement de comment c'est différent de dire un poème devant les autres, comment ça en change éventuellement la durée, comment il faut considérer qu'il y a des gens autour. On l'écoute au micro de Pascal Casanova en 2000.
La poésie action implique une prise à bras-le-corps du texte avec la conscience d'avoir à l'installer, le projeter dans un espace qui est celui de la salle, quelle qu'elle soit, dans une durée, avec la conscience que la durée du lecteur n'est pas la même que la durée dans la salle, et avec aussi la conscience qu'on est en train de lire un texte et que le mode de lecture que l'on a choisi pour ce texte lui correspond bien, qu'il n'y ait pas contradiction entre la façon de le lire et l'image que l'on donne de ce texte en le lisant. Ça, c'est très important, parce qu'au contraire, la façon dont on va le lire, et chaque texte peut requérir un mode de lecture différent, la façon dont on va le lire doit au contraire en faciliter la compréhension, doit l'aider, le porter, le supporter. Donc, il faut que le mode de lecture qu'on a choisi pour tel texte l'aide à passer, en donne un minimum de compréhension pour le public.
L'aide à passer, choisir un mode de lecture, en entendant la voix de l'écrivain et poète Bernard Heitzig, vous évoquiez Charles Penquin qui troue la feuille avec sa langue, c'est peut-être presque une manière de faire passer le texte d'abord à travers la page, puis ensuite presque dans son corps, Aurélie Folia. Il me semble que c'est intéressant de parler d'un choix du dire comme une façon d'aider à passer le texte. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous l'entendez, Bernard Heitzig?
C'est vrai que on pourrait considérer qu'un livre fermé, c'est qu'un amas de feuilles mortes et qu'il faut le rouvrir, c'est-à-dire remettre les mots en liberté. Il, dans cet extrait, il est très sensible à la dimension du sens et c'est vrai que lire un texte, c'est déjà l'interpréter et l'incarner. Et donc, on porte son texte, comme on dit, donc on le fait surgir de la page. Après, dans ma pratique, il y a un aspect assez graphique et typographique. Du poème, donc il a sa verticalité, il a ses blancs, ses silences, et c'est toujours des questions qu'on se pose quand on essaye de traduire, de transcrire de l'écrit à l'oral, de savoir comment on va restituer ses blancs, ses coupes aussi.
Ça crée des défis quand même pour vos deux recueils, peut-être. Oui. Certains de vos passages, on va dire, peuvent apparaître notamment à la fin, plus comme des poèmes en prose, un peu plus classiques. Mais il y a plein d'autres moments où le texte est beaucoup plus accidenté. Et pour vous aussi, il y a beaucoup de retours très abrupts à la ligne, des scansions presque à l'intérieur des mots. Bon courage quand il s'agit de rendre cette énergie-là à l'oral. On pourrait avoir l'impression que c'est plus facile à l'oral, mais en fait, il se passe tellement de choses à l'écrit, là, sur les caractères imprimés, que comment vous faites?
C'est un rythme, et je pense que le spectateur ne perçoit pas la même chose qu'un lecteur.
Bien sûr.
Disons que c'est tout un travail, bon, on le fait avec l'éditrice sur la page, pour On en particulier. Donc voilà, les éditions Lanskin ont été très attentives à cette typographie très particulière qui inclut beaucoup de points, aussi bien des points au milieu des phrases que le point médian. Et donc on s'est avancé sur ce terrain très expérimental d'une langue fragmentée, morcelée, qui devait faire sens. Et on a entendu que Bernard Heissig n'avait pas du tout congédié cette question du sens. Au contraire, il était beaucoup dans la question de cette transmission de quelque chose qui doit passer, comme vous disiez.
Absolument, et d'ailleurs, il est très attentif à l'idée de que ça aille vers les autres, parce que dans cet archive, un peu plus tard, il dit qu'il lui arrive de lire ses poèmes en langue française au milieu de salles qui ne sont pas du tout francophones, parce qu'il a une renommée internationale, et donc il pouvait lire en Allemagne, en Italie, un peu plus tard dans cet archive, il en parle, et il dit que non, il faut précisément être encore plus actif dans son désir de transmettre, y compris une langue qui éventuellement n'est pas parlée. Alors, on est quand même dans le premier temps du book club, et dans le premier temps du book club, c'est un questionnaire lecture. Comment est-ce que vous êtes arrivés l'une et l'autre à la poésie? Par quelle voie? Alors, on a parlé de ces scènes ouvertes, mais est-ce que c'est par les livres? Est-ce que c'est par la musique? Ça a été quoi votre chemin, Elsa Eskenazi?
Moi, très clairement, c'est par le rap français. Ça, c'est certain. Je pense que ma culture poétique, elle commence d'abord par Rossé, Virus, La Rumeur, Cazet. Ça, c'est fondamental dans mon écriture, dans mes inspirations, dans l'oralité aussi. Mmh. Ça commence d'abord par là.
Ensuite, que vous découvrez quand? Parce qu'en fait, c'est des générations assez différentes que vous citez là. Je pense par exemple entre La Rumeur...
C'est les années
2005-2004. Je dis La Rumeur, Cazet, Virus. Ouais. Ouais, peut-être Virus un tout petit peu après.
Un petit peu après. Bon, là, notamment, il vient de sortir un album extraordinaire qui, pour moi, aide la littérature.
Bien
vraiment
sûr.
C'est pas autre chose. Moi, c'est extrêmement inspirant. Cette force-là, de ces textes-là, cette poésie, cette langue travaillée, évidemment, la colère, évidemment, la révolte, évidemment, le politique que tous ces textes-là disent. Ça m'a énormément appris.
Et c'était avant de lire des textes, par exemple, c'était avant de...
C'était bien avant la poésie.
Ouais.
Pour moi, c'est ça, la poésie.
Ça arrive par là dans votre vie.
Ça arrive par là. Et ensuite.
Vous avez conscience tout de suite que c'est ça?
Ouais. Oui. Ah oui. Mon cœur sait.
Ouais.
Ouais. Que ça, c'est de la poésie. Mon cœur et mon corps, parce que c'est des mots qui ont des textures, qui ont des points d'impact tellement, tellement forts. Et encore aujourd'hui, j'écoute, ça me remet clair dans ma tête, le rap français, ça m'aide, ça c'est certain. Et ensuite, je découvre Tarkos aussi, qui est un poète très important, parce qu'il creuse, il cherche, on a l'impression d'un surplace, et en fait, je découvre à quel point il creuse, et comme le sens se révèle peu à peu dans son écriture.
Vous le découvrez comment, Christophe Tarkos?
Par un cadeau. On m'offre un livre de Tarkos un jour et
bonne pioche.
Exactement. Et encore une fois, mon cœur sait.
Ouais.
Voilà. Et j'aime beaucoup aussi ce qu'il fait dans la feuille Tarkos. Ça m'inspire beaucoup cette liberté-là.
D'un point de vue typographique, vous voulez dire.
Parce que du coup, c'est sensible. Il y a plein d'émotions. C'est très. Enfin, je reçois beaucoup d'émotions dans ses livres. Et récemment, je rencontre Laura Vasquez et là, ma vie change de nouveau, Marie Richeux. Là, de nouveau, le monde change.
Ouais, vous avez de la chance.
Ouais.
Tous ces virages comme ça, grâce à des surgissements de langue dans votre vie.
Oui.
Pourquoi ça change avec Laura Vasquez? On peut dire que c'est une des grandes figures de la poésie contemporaine.
Ça change parce que je me dis, j'ai envie d'habiter là. J'ai envie d'habiter dans son écriture. J'ai envie d'habiter dans la semaine perpétuelle. Mmh. Je comprends rien. Et je comprends tout en même temps. Mmh. Je comprends ce vacarme. En même temps, ça me dépasse et je me dis, je suis chez moi là.
Oh.
Ouais, c'est important.
C'est précieux.
Oui.
Ouais, et puis c'est ce qui est très beau, je trouve. Et puis on va continuer, à mon sens, de le creuser dans cette émission avec vous deux. C'est que il est beaucoup question d'un lieu. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous dites mon cœur, c'est je suis chez moi, c'est ma maison, je veux habiter là. Il y a vraiment l'idée une sorte de cohabitation entre le poème et l'espace, entre le poème et le lieu, et c'est très puissant dans vos deux recueils. Pour ce qui est de votre rapport à la poésie, Aurélie Folia, ça passe par où? On a entendu, vous avez mentionné des étudiants, par ailleurs vous enseignez, vous avez aussi une autre pratique qui est celle de l'enseignement, de cette haute forme de transmission.
Exactement, donc moi je viens de loin, j'ai des racines grecques et latines. Et ma formation et ma déformation passent par le livre très clairement et toute cette transmission, voilà, qui passe par les poètes de la Pléiade et puis surtout par les poètes romantiques, thèse sur Lamartine, Baudelaire, beaucoup Rimbaud et puis beaucoup de poètes du XXe siècle et de contemporains.
Vers quel âge ?
J'ai l'impression... d'un flux nourrissant qui n'a jamais cessé, peut-être transmission aussi par ma mère qui enseignait le français. Donc voilà, c'était un bain. Et j'habite là, je dirais, comme Elsa.
Mais vous dites formation et déformation, ça veut dire que de cette formation, on va dire un peu plus classique, un peu plus dans le corpus poétique qu'on attend quand on parle de la poésie en France aujourd'hui, il y a une déformation ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous aurait fait prendre un virage?
C'est une belle maison, hein. Vous l'avez bien noté, le mot de déformation, parce que je pensais à une phrase de Pierre Michon dans « J'écris l'Iliade ».
Qui est son tout récent livre.
Voilà, qui dit « J'ignorais qu'il fallait avoir fait l'ENS pour écrire Une saison en enfer ». Et je me suis dit, bah, on l'ignore tous, parce que passer par les grandes écoles ne délivre aucun certificat de poète. Et je pense que c'est même peut-être plus difficile d'écrire une saison en enfer quand on a une formation académique très classique et qu'il faut désapprendre tout ce qu'on a appris et vraiment s'ouvrir à d'autres formes de pratiques et voilà, pour que la poésie reste vivante, qu'elle se réinvente et qu'elle ne soit pas simplement appliquée des codes, même si...
Et ça a été votre cas ?
Ah oui, très clairement, oui, j'ai dû aussi...
Désapprendre ?
Désapprendre, opérer une sorte de mue et... Voilà, de travail libératoire. Après, j'ai jamais été dans une perspective formelle. Et donc, appliquer des codes, compter des syllabes, respecter des rimes, pour moi, c'est un appareil trop lourd qui étrangle la poésie. Donc, voilà, ça n'a pas été mon problème de désapprendre une poésie formelle. Mais,
Alors, qu'avez-vous désappris ?
Peut-être justement un certain rapport au classique et au livre pour arriver sur un plan plus iconoclaste où on expérimente davantage, où on cherche. Je pense que je peux me définir comme une chercheuse toujours, quand je mange, quand je dors, quand j'écris
ça et aussi, quand j'enseigne. Ça aussi, c'est un bon endroit d'être une chercheuse, quand vous mangez, quand vous dormez. Vous avez opiné du chef au mot « la mue », Elsa Eskenazi. Qu'est-ce qui vous parle dans ce mot-là ?
ouais, c'est important de laisser des peaux derrière soi. Ça, c'est... Voilà, c'est ça me parle, la mue, bien sûr. Bien sûr, je trouve ça très intéressant. Laisser. Voilà.
On va continuer de parler de vos textes et de votre travail juste après ce morceau de l'artiste londonienne John Glacier. Elle est d'origine jamaïcaine, elle a grandi dans le quartier de Hackney. Le journal The Guardian dit que son disque Like Ribbon sonne comme un ovni dans le ciel du rap britannique. Du coup, ça nous a rendu vraiment très curieux. Écoutons cet extrait, Don't Cover Me. And even these times, I find me in a cycle. Don't cover me blind. Something else will write to you. I doesn't need shine. Cause shine seems to taint. I just want it in line. Don't cover me. Don't cover me blind. Don't cover me. Don't cover me. Don't cover me blind. Don't cover me. Don't cover me. Over my head like the skies of the time. Can't read the signs, but they chime over mine. Was kind with the seat, not in line with the sheets. But they climb over me and cover me blind. Like a cycle to me, like the signs never reach. My burdens, my words, or designs on the beats. And they cover me. They cover me blind. Cover me. Don't cover me. Don't cover me. Don't cover me blind. Don't cover me. Don't cover me.
what covered me blind. Not with signs, but came with time. I'm eternal, like I ain't mortal. From the ends, but the flow came formal. I'm important, me with these. From Jamaica, not from Belize. Hackney girl, and now I got peas. All the brands want bots on me, bots on me. Locked and low like a chop on keys. Cross the eyes and look all the T's. In my league, act like I ain't normal. From the end to the drip came different. Couple girls act like they ain't with it. They like me, what covered me blind. Covered me blind.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Deux recueils de poésie au programme de votre book club aujourd'hui et l'envie d'évoquer cette scène contemporaine française. Deux recueils très différents mais qui pourraient se parler. Se parler de l'importance d'être entendu pour sortir de l'aliénation, pour sortir tout court, pour conjurer des sous-sols pourris d'une maison, d'une famille ou d'un genre. Les deux recueils fabriquent des espaces, désossent les mots, fragmentent les vers et les phrases pour dire que la violence fragmente aussi les corps et les vies. Dans votre recueil, On, Aurélie Foglia, publié aux éditions Lanskin, vous écrivez « C'est pas de la poésie pour faire joli, ni décoratif, désolé, c'est On qui s'est imposé, qui m'a forcé la main, qui m'a percé la langue avec son grand cri de silence. Je n'ai pas pu me refuser, tout le reste est venu, en a découlé. » Alors, c'est pas du tout le début du recueil, c'est plutôt à la fin de votre texte, mais il semble parler de l'énergie qui l'initia, en tout cas qui initia à l'écriture, et comme une force, la force On, qui ne vous aurait pas laissé le choix, ou n'aurait pas laissé le choix à la narratrice ou à la voix qui parle, Aurélie Foglia. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé pour vous ?
Tout à fait, c'est-à-dire que j'aurais pas écrit ce livre s'il n'était pas le fruit d'une nécessité, et c'est l'œuvre qui a voulu. C'est-à-dire que l'œuvre nous prend la main et on se laisse faire, on suit. Et là, c'est vrai qu'il y avait une prise de risque. Et au début, j'étais plutôt réticente, non pas tant sur l'invention d'un nouveau pronom impersonnel dans la langue, qui est ce pronom impersonnel féminin, quelqu'une, si vous voulez, on, qui fait pendant à on, qui serait un impersonnel masculin. Mais c'est plutôt sur la question de l'écriture qu'on dit inclusive aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il s'agissait pour moi de sonoriser le « e » dans la langue, de faire exister davantage le « e » dans la langue, parce qu'on se rend compte que dans l'histoire de la langue française, on assiste à une forme d'amuissement, c'est-à-dire une façon de rendre muet ce « e » du féminin. Et c'est ce qui m'a paru analogique au fond d'une longue histoire de la condition féminine, non pas seulement en France, mais dans quasiment tous les pays et à travers l'histoire, d'une forme d'invisibilisation et d'insonorisation du féminin.
Donc il y a vraiment quelque chose qui, dès le départ en tout cas, raconte comment devenir un peu plus sonore, comment apparaître. Les premiers poèmes sont très concentrés sur l'invention de ce on, on.e. On va écouter la voix de Damien, auditeur. Il vous a lu et il vous adresse une question.
Bonjour le Book Club, bonjour Aurélie Foglia. Alors, j'ai lu On, que j'ai beaucoup aimé, notamment pour son rythme très intéressant avec cette composition distique, avec des vers très courts, mais aussi ces jeux de mots très subtils dans les rejets, qui sont parfois très rudes, mais c'est aussi ce qui fait leur intérêt. Mais surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est bien sûr votre langue, cette langue avec ce pronom impersonnel féminin, et cette langue qui est tout simplement féminisée à l'outrance, qui ouvre des perspectives sur la langue. Mais vous faites ça dans un contexte poétique, hors du langage réel. Du coup, je me suis posé une question toute simple. Pensez-vous que On aurait sa place dans la langue réelle, tout simplement ? Merci de votre réponse.
Merci beaucoup à vous, Damien. C'est dommage qu'on ne soit pas en direct avec Damien. On lui demanderait peut-être de préciser ce qu'il entend par la langue réelle, parce que la langue des livres, ce n'est pas non plus une langue qui ne serait pas réelle. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous l'entendez, Aurélie Foglia ?
C'est une belle question, une longue question qui est déjà une lecture, une interprétation, donc merci beaucoup. Alors, au niveau de cette langue réelle, oui, Ça voudrait dire qu'il y a une frontière entre le livre et la vie. Or, voilà, la poésie est dans la langue et toute la langue est dans la poésie. Donc pour moi, il n'y a pas de frontière. Après, c'est vrai que je comprends très bien que, dans le sens de cette question, j'ai fait une proposition expérimentale dans le champ de la poésie, qui est plutôt un peu à côté de la langue courante, de la langue commune. Est-ce que je milite pour une introduction donne dans la langue? Je ne sais pas. Il y a déjà beaucoup de propositions qui sont faites, par exemple autour de Yel, le pronom Yel, qui n'est pas la même chose qu'on. Disons que je ne vais pas jusque-là, jusqu'à prétendre avoir inventé un nouveau pronom dans la langue française. Mais en tout cas, dans l'espace du livre, ça lui donne tout d'un coup une respiration, une existence. On sent ce surgissement qui insiste. Et quelque chose de très démuni aussi, c'est personne, mais personne au féminin, enveloppée de son silence, de son mystère. Et il y a un mouvement dans ce livre, puisqu'on commence avec On, qui est un peu l'anonyme du féminin, et puis on va vers l'affirmation d'un jeu. L'idée, c'est de devenir autrice de soi-même, c'est-à-dire d'exister plus, et peut-être de devenir une parole. Et donc ce mouvement m'importe dans le livre, et je dis pas, enfin si je le dis, que On est à dépasser, au sens où peut-être que On c'est la dénommée, c'est celle qui n'est pas encore arrivée jusqu'au jeu, et c'est pas facile peut-être pour une femme d'arriver à dire jeu.
Oui, il y a vraiment toute une sorte de parcours, mais ce serait un peu trop simple ou linéaire de dire les choses comme ça. Moi, je l'ai plutôt vécu comme il y a quelque chose qui apparaît, qui insiste, comme vous dites, ce on, O-N.E. Et puis j'ai l'impression que vous, ou la narratrice, enfin la personne qui écrit, regarde comment ça marche, essaye de voir comment ça marche, essaye de voir ce que ça nous raconte aussi, c'est-à-dire que notre auditeur parlait du distique, c'est-à-dire peut-être vous pouvez dire un petit mot là-dessus, sur ces fameux couples de vers, et comment aussi en découpant certains mots, vous faites apparaître des choses, par exemple couple. Quand on va à la ligne après coup, on fait apparaître une violence.
Oui, exactement, vous l'avez bien pointé. Donc la coupe, elle est faite aussi pour faire apparaître des mots et pour les inquiéter et pour qu'ils aient aussi tout leur sens à la fois, pour les gorger de signification. Et donc ce travail sur la coupe, il me paraît très important. Alors c'est vrai qu'il y a des distiques, c'est-à-dire des couples de vers boiteux qui ont tendance à reconstituer le couple parfois conflictuel entre on et on, et jusque à des passages qui sont des scènes, qui sont des récits, qui sont des moments de violence. Et donc il y a des scènes qui sont simplement de soumission, mais il y a des scènes aussi qui sont inspirées de violences réelles, dans la langue réelle, vécues par des amis. Je pense au féminicide de Cécile Poisson, qui a été très marquant pour moi. Et il y a une entrée d'Onne qui lui est dédiée de façon assez discrète. Et aux autres, oui, toutes les victimes de féminicide, d'articide, de toutes les formes de destruction que peut subir une femme et un corps de femme et une œuvre de femme.
Oui, parce qu'il y a quelque chose d'assez frappant qui se passe dans ce recueil, Aurélie, c'est le cas de le dire, Aurélie Folia, c'est que la manière dont la langue est désossée ou la phrase est découpée fait signe, mais de manière, je sais pas comment on pourrait dire, forte, matérielle, presque physique, vers du vrai découpage, vers des vrais coups, vers des vrais désossements, vers des vraies manières de désarticuler le corps d'une femme, de le démanteler. L'attaque qui est faite à la langue, et c'est une attaque poétique, mais elle nous raconte d'autres attaques.
Il y a quelque chose d'assez mimétique dans cette décomposition, dans ces fragments, comme un corps de femme qu'on démembre, et peut-être aussi c'est ce qui explique cette prolifération de points, comme si la langue était un organisme qui était menacé de fragmentation et de décomposition. Il y a des points qui sont des points médians, mais vous avez aussi des points à l'intérieur même des phrases, des points qui ne finissent pas les phrases et qui sont des sortes de petite mort sans suite, et donc il faut toujours peut-être revivre, pour reprendre le titre d'Elsa, et être survivante de cela. Et donc voilà, il y a ce dispositif qui fait cette proposition du point dans la langue. Pour moi, c'était aussi un peu le rappel de l'ancien Sparagmos d'Orphée, où les ménades décomposent complètement le corps d'Orphée, le lacère. Donc il y a vraiment... Enfin, la langue subirait cela aussi.
Mais dans une perspective peut-être de se réinventer ou de se revitaliser, puisque vous dites qu'il y a un parcours et que vous tenez à ce parcours, puisque vous citez le titre du livre d'Elsa Eskenazi, il y a aussi un parcours, il y a aussi un mouvement dans votre livre, l'enfant de l'interstice qui prend la parole au départ, le caddie ou l'aquarium dans lequel il se souvient avoir grandi, la visite d'une géologue qui lui révèle que sous la maison il y a des sous-sols, qu'ils sont pourris mais qu'il y a aussi des passages, ah bon, ils existent, oui, tout le monde le savait, non, c'est archi faux, tu as le code, oui, je l'ai. Voilà, il y a quelque chose qui... des souterrains qui s'ouvrent petit à petit, des manières d'accéder à d'autres espaces soi-même, de regarder ses morts, enfin, ça bouge, quoi, ça avance, on est d'accord,
ouais, d'accord.
Est-ce que vous diriez que ça a aussi à voir avec la capacité de dire « je » ou peut-être pour le dépersonnaliser un peu avec la capacité de dire quelque chose, en fait. J'ai l'impression que ce texte, il dit l'importance de pouvoir dire quelque
Exactement.
Chose.
Exactement. Ah, ça me fait du bien, ce que vous dites, ça me fait plaisir, c'est très juste. Exactement, ouais. La capacité de retrouver une parole, pouvoir la dire, c'est un long chemin. Et revivre, pour... Finalement, je ne l'ai pas forcément écrit dans ce sens-là, mais finalement, il est une traversée vers ça. Mais je ne le savais pas en l'écrivant. Et effectivement, l'importance de réussir à un moment le dire.
Ouais.
Quoi ? Je ne sais pas. Mais...
Non, mais d'ailleurs, ce n'est pas forcément dit, ce n'est pas tellement l'objet de savoir quoi dire.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais pour ça, il faut laisser des pots, aller dans les souterrains, peut-être aller voir les morts, rentrer dans un texte à trous, finir dans un caddie, peut-être y sentir bien, et puis être englouti par du sucre. Bon, c'est ce que le livre traverse, tout ça. Mais effectivement, c'est dire, retrouver une parole.
Et avoir des alliés, parce qu'il y a quand même l'arrivée, moi j'ai été bouleversée par l'arrivée de la géologue dans cet espace-ville, hein, qu'on finit par complètement se figurer, et par la main qu'elle tend à l'enfant de l'interstice, ou à l'être qui parle, et combien elle va soutenir petit à petit cette traversée, quoi. Il me semble que c'est aussi avoir des bons alliés dans ce parcours.
Bien sûr, bien sûr. On ne parle pas tout seul. Je crois que c'est peut-être ça. On ne parle pas tout seul, on n'est pas le premier à parler. Avant, d'autres ont parlé. On parle avec les morts, on parle avec demain, on parle... et on ne parle pas... effectivement, on ne parle pas tout seul. On a des mains qui nous aident à parler. Des mains tendues.
On va vous écouter, si vous voulez bien.
Allez.
Allez, scène ouverte du Book Club, on vous laisse. C'est acrobatique, hein, de vous demander de passer de l'interview à la lecture. Donc merci beaucoup de le faire. Est-ce que tous les micros sont ouverts ? Tous les micros sont ouverts.
Ok. C'est ça uniquement que je devais faire. Alors je le faisais. Il le fallait. J'écoutais. Ce qui sortait, ce qui venait de l'extérieur du caddie. C'était comme des vagues qui venaient s'écraser dans l'aquarium. Des vagues. Deux. Texte. Du. Texte. Le texte. Voilà. Le texte venait. Le texte inondait le caddie. Moi, j'étais dedans, trempé donc, par le texte qui, il n'arrêtait pas de s'écouler son texte. C'était un texte coulant qui venait dans le caddie. J'écoutais ça, tout le temps. J'écoutais ça, l'écoulement de son texte. Alors, à force d'écouter, avec l'entraînement, j'ai fini par, j'entendais. Oui, c'est ça. Merde, c'est ça. J'entendais. Le texte parler. En réalité, le texte était parler. Par parler. Par un autre que moi. Un autre. À part. De part et d'autre, un autre. À part moi, lui. Je pense. Un autre que moi. À l'extérieur du caddie. Un autre parlant parle. Parce que... L'espace. Oui. L'espace, à l'extérieur du caddie. Il y avait un espace. Il y avait, surtout, surtout ça. Il y avait, surtout, je pense, surtout à ça. Il y avait, partout. Il y avait quelqu'un. Voilà. D'autres. Quelqu'un y habitait dans cette, au-dedans, dans les environs habitables. Ça ne pouvait pas être moi, je le sais. Et je devais, il le fallait, que je l'entende. C'était pour ça, pour cette raison-là, que j'étais assis dans le fond du caddie, au fond de l'aquarium, au top dedans, à l'intérieur assis. Le texte, lui, il allait et il venait, il faisait ça, toc toc toc, il faisait ça. Et moi, j'entendais tout, 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 j'entendais absolument tout. J'étais au top à tout entendre. Et puis, ensuite, à la suite, ils sont venus, oui, me chercher. Le texte le disait alors. Ils sont venus, c'est bien vrai. La vérité, c'est la vérité. Mais attends, avant qu'ils viennent me chercher, oui, avant. Il y a toujours un avant, l'événement, avant, la situation, il y a toujours ça, partout. Comme la peste, partout. C'est partout, ça. Avant que ça n'arrive. Avant ça. Dans le caddie, oui. Dans le caddie, c'est arrivé parfois. Pas souvent. Pas toujours. Pas souvent. C'est arrivé parfois. Légèrement. Tout à fait. Légèrement. Parfois, quelqu'un. Un autre. Peut-être, c'était le même autre du texte parlé. Peut-être.
C'est moi qui vous remercie, c'est nous qui vous remercions. Bravo et merci beaucoup Elsa Eskenazi. C'était un extrait de Revivre paru aux éditions du Bunker. Je trouve que c'est très important aussi dans le passage qu'on avait choisi ensemble, cette idée du texte qui est parlé, du texte qui est écouté. On n'a pas dit, mais il y a aussi toutes ces pages noires où les mots peuvent apparaître en blanc ou inversement, des pages blanches être recouvertes de mots noirs en capitale. Il y a une dimension sonore très... Je parle beaucoup comme ça, je vous laisse le temps de reprendre votre souffle.
C'est bon.
Une dimension sonore très importante qui a beaucoup à voir avec la possibilité d'écouter. On a dit la possibilité de parler, mais aussi la possibilité d'être entendu d'une certaine manière.
Ouais, tout à fait, c'est ça. C'est il y a plusieurs dimensions. Je sais pas. Je ne sais plus où j'en suis avec ce livre. Il m'échappe.
Tant mieux, tant pis.
Ouais, tant mieux, tant pis. C'est assez agréable en même temps. Je vois qu'en fait, il a plusieurs dimensions. Et parfois, effectivement, le... Oui, il est écouté, oui.
Est-ce que, par exemple, moi, ce que je disais, c'est-à-dire, à un moment donné, moi, je l'ai vu, cet enfant, j'ai vu le cirque, j'ai vu l'être qui se transforme, j'ai vu la géologue, j'ai vu les souterrains. Pour vous, c'était quelque chose de concret dans votre tête? Quand vous l'écriviez, ce texte-là, il y avait un paysage, il y avait un espace?
Alors, il y a évidemment un paysage qui est interne. Je dirais que le climat du livre, il me ressemble. Il est moi, je dirais que l'ambiance un peu. Mais ensuite, pour moi, c'est polyphonique. Il y a plusieurs. Mais ça m'intéresse parce que vous dites que c'est l'enfant de l'interstice qui se retrouve avec la géologue. Pourquoi pas?
Ouais, c'est comme ça. Moi, j'ai vraiment vu, ouais.
Mais c'est.
Ça veut pas dire qu'il a pas laissé dépôt entre temps, mais j'ai vraiment vu une voix, ouais.
Pour moi, c'est polyphonique. D'ailleurs, il y a plusieurs genres. C'est pas genré de la même façon. Donc, je sais pas si c'est un personnage.
Moi, je l'ai vu se transformer. Voilà.
Oui, c'est vrai.
Qui pouvait passer d'un genre à l'autre. Ça m'a pas gênée.
Est-ce que je l'ai vu? À un moment, j'ai vu, oui. Je crois que ça a à voir avec le travail avec les éditions du Bunker. À un moment, on m'a fait voir aussi.
Ouais. C'est précieux d'ailleurs, l'une et l'autre, vous parlez beaucoup de la possibilité d'échanger avec des éditeurs ou éditrices avec qui vous avez pu aller au bout de vos propositions typographiques, avec qui vous avez pu inventer, avoir la liberté de le faire. C'est assez important. Est-ce que vous voulez bien, vous aussi, Aurélie Foulia, nous lire un extrait de Homme, paru aux éditions Lanskin? Vous restez à table?
Pourquoi pas, même si c'est vrai que
c'est tentant, le micro,
la
là-bas.
Lecture performée, c'est de la poésie debout. Mais bon.
Allez, soyez debout, assise, il n'y a pas de problème. On vous écoute.
Peut-être pour gagner du temps, je vais rester assise.
D'accord.
Alors, peut-être vous voulez entendre Reste?
Ouais.
Et puis Langue mangée?
Allez, j'étais sur Langue mangée, moi aussi.
Ah d'accord, oui.
Et bien, Reste et Langue mangée, alors.
Parce qu'il y avait cette difficulté de sonoriser le E à l'oral. Ouais. À l'écrit, on le voit très bien apparaître. Ouais. Et puis, on s'était demandé justement avec mon éditrice comment ça allait se passer à l'oral. Et donc, je le sonorise. Allez. On m'a fait remarquer que dans le chant lyrique, on sonorisait les E. Voilà.
Donc, sentez-vous libre de sonoriser autant que vous voulez. Hein.
Je ne vais pas chanter. C'est la langue qui chante peut-être, allez, mais pas moi. Reste. On la tronçonne née E. On a retrouvé ses jambes dans un parc couru, dans des sacs, crevés. On voulait se séparer, les bras sur les rails, en plastique noir, opaque. D'un côté, des cuisses, et la tête, comme une pierre. De l'autre, le tronc, au bord de la Seine. On n'avait été jusque-là. On avait été jeté sur la berge. En partie. Langue mangée. Ce n'est pas de la poésie pour faire joli, ni décoratif. Désolé. Ramassis d'horreur. Mise à nu. Le malaise grandissant à chaque ligne. Cet effet pour fruit. Les mots pour déterrer les mortes blessent la bouche. L'embouchure des langues maternelles. Les vers sacs cadés sont faits pour heurter sec. Les discours se disent loques comme ces corps mutilés de mots. Une fois semés eux, les langues se gangrènent. Je ne voulais pas, je ne pensais pas, je ne cherchais pas, j'avais des réserves. L'écriture à point me tapait sur les nerfs. S'étonne. Qui s'est imposé, qui m'a forcé la main, qui m'a percé la langue avec son grand cri de silence. Je n'ai pas pu me refuser. Tout le reste est venu, en a découlé.
Merci beaucoup, bravo pour cette lecture. On, Aurélie Folia, paru aux éditions Lanskin. C'est ce poème que j'évoquais dans l'introduction de la deuxième partie de notre conversation. Je ne voulais pas, je ne pensais pas, mais j'avais des réserves. Et moi, j'aime beaucoup cette idée de j'avais des réserves. Et je voulais vous interroger sur qu'est-ce qu'elles pouvaient être, ces réserves de celle qui nous parle, de la voix qui nous parle. Et est-ce qu'il faut entendre l'idée d'avoir été agi par le poème comme un regret? Enfin, on a l'impression que c'est presque... comme si elle avait été obligée de se laisser faire par le poème.
Il faut que la poésie parfois nous force la main pour nous amener à des audaces qu'on n'aurait pas soi-même, par une forme de timidité. Réserve est aussi à entendre dans les deux sens, au sens négatif peut-être, avoir des réticences, mais aussi avoir des réserves.
Ah ouais, moi je l'entendais sur des réserves, j'avais du stock, j'avais de quoi faire. Voilà. Ouais.
Donc les deux acceptions du mot sont possibles et font sens et font plus de sens que on n'a pas besoin forcément de trancher. Et l'idée... Oui, c'est de faire surgir On, et les réserves, elles étaient peut-être par rapport à l'écriture à point, c'est-à-dire pourquoi finalement mettre des points médians, pourquoi tous ces points? Et j'avais l'impression qu'au fond, c'était ce geste qui était proprement poétique de venir me heurter à la langue, au point aveugle de la langue. Et ces points aveugles de la langue, là où la langue travaille, c'est ce qui fait peut-être que la poésie est vivante et qu'elle prend son risque et qu'elle se réinvente. Donc pour moi, c'était important de venir me situer à ce point-là.
Souvent, j'ai l'impression, dans les poèmes, et c'était encore plus frappant lorsque vous les lisiez, là, à l'instant, Aurélie Folia, c'est aussi la réserve de sens. C'est-à-dire qu'on sent bien que vous n'avez pas du tout l'intention de vous contenter d'un sens par mot, ni même de deux. Enfin, il s'agit vraiment de montrer qu'à l'intérieur d'un seul phonème ou d'un seul signifiant, il y a plusieurs sens. Enfin, c'est là pour bouillonner, pour éclater, quoi.
C'est ce qui fait toute la richesse de la langue et cet affleurement. Après, peut-être que la lectrice, le lecteur peut choisir, s'orienter. C'est aussi une difficulté, évidemment, parce que voilà, on donne une sorte de poème en kit et il faut ensuite se l'approprier.
Moi, j'avais pas entendu les réserves négatives, par exemple. Je l'avais pas. Alors que c'est vrai qu'en effet, d'un seul.
Je ne l'ai entendu que quand vous l'avez dit vous-même. Donc, on en apprend toujours sur ces textes. On les entend peut-être différemment. Ne serait-ce que quand on les oralise, peut-être aussi,
bien
ça
sûr,
leur donne
ouais.
aussi un relief ou une richesse supplémentaire. Donc peut-être une épaisseur. Donc voilà, cette façon dont finalement ils trouvent une résonance à l'oral.
Et le book club continue.
France Culture, le book club. Marie Richeux.
Ah oui. 15h50 le mardi, c'est l'heure de parler économie avec vous, Nicole Vulser. Bonjour Nicole.
Bonjour Marie.
Vraiment, tout le monde veut faire des économies partout. On cherche la moindre petite pièce, le moindre petit euro, et c'est l'heure des économies qui a sonné, y compris chez les grands éditeurs.
Absolument. Pour réduire les coûts de manière significative, quoi de plus radical que de déménager dans un lieu plus petit, quitte à tasser les équipes. Dans un étrange alignement des planètes, les actionnaires d'Editis, le numéro 2 de l'édition, et Hachette, le numéro 1 du secteur, ont eu cette même idée, qui provoque dans les deux cas une légitime inquiétude des salariés et s'accompagne de mouvements sociaux. Le bail de CMI, la société holding du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui détient le groupe Editis, arrive à échéance à la fin de l'année 2025. Pour réduire les dépenses, l'idée de regrouper au sein de l'immeuble d'Editis les autres activités du groupe, comme la presse, Elle, France Dimanche, Ici Paris, et la future télévision a été entérinée par les directions dès septembre. Ce qui signifie que 700 salariés, jusqu'alors situés à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine, devront rentrer au chausse-pied dans les locaux d'Editis, situés avenue de France, dans le 13e arrondissement de Paris. Cet immeuble abrite déjà 1400 salariés et honnêtement, il semble difficile de caser autant de nouveaux venus. D'importants travaux vont être mis en œuvre pour tenter de pousser les murs. En décembre prochain, tous les salariés travailleront dans des espaces ouverts, ce qui manquera forcément d'intimité pour négocier un contrat avec un auteur ou lui demander de retravailler une partie de son manuscrit. Ce qui inquiète le plus les équipes, c'est le recours forcé à 5 mois de télétravail pour tous, le temps de réaliser les travaux. Et ensuite, le recours au télétravail deviendra la norme, tout comme le flex office.
C'est quoi ?
Les salariés devront réserver préalablement un bureau s'ils passent sur le site. Sinon, ils n'auront pas de bureau. Pour les syndicats, je cite, « Faire ce choix pour des économies de loyer est une aberration pour quiconque connaît un peu notre travail. Ils redoutent, je les cite encore, une dégradation spectaculaire de leurs conditions de travail, mettent en garde contre des risques psychosociaux considérables, mais aussi s'alarment des conséquences économiques d'un tel choix. Au point où, après un premier mouvement social le 12 décembre dernier, 3 syndicats ont appelé à la grève le 11 février. Et bien sûr, tous redoutent que cette opération s'accompagne de coupes franches dans les effectifs, même si la direction assure qu'il n'en est pas question. »
Et le scénario est le même chez numéro 1, chez Hachette.
Absolument. L'actionnaire d'Hachette, le groupe Vivendi du milliardaire Vincent Bolloré, a lui décidé de vendre au prix fort les magnifiques locaux situés rue d'Assas, dans le 6e arrondissement de Paris, dans lesquels sont installés depuis 1910 les salariés d'Atier, une filiale scolaire du groupe. Les 140 salariés de cette filiale, tout comme les 15 de Quick, une autre entité spécialisée dans les exercices d'enseignement scolaire, devraient rejoindre le siège social d'Hachette Livre à Vanves. Là encore, tous redoutent d'être installés dans des espaces de travail collectifs sur un plateau unique. Selon les syndicats, la capacité maximale d'accueil de l'immeuble de Vanves est de 1000 personnes, et là, il y en aurait 1107. Un rapport d'expertise indépendant présenté par les syndicats à la direction conclut, je cite, « à une dégradation significative de leurs conditions de travail à Vanves. Après une première grève le 21 janvier, les salariés d'Atier et de Quick se sont à nouveau mobilisés il y a tout juste une semaine, le 11 février, pour clamer leur mécontentement de l'arrivée dans les locaux de Vanves. »
Je disais que tout le monde veut faire des économies. Est-ce qu'il y a d'autres éditeurs qui ont suivi cette tendance du déménagement ?
Absolument, Marie. Là encore, pour des raisons d'économie, les éditions Bayard quitteront leurs locaux de Montrouge et déménageront début mars pour l'immeuble California à Malakoff. La direction ne s'en cache pas. Son idée est de diminuer le coût global d'occupation du siège social. Il est prévu là aussi d'instaurer un système de flex-office qui permet de réduire considérablement la surface des espaces de travail.
Ça revient à dire que le dialogue social, puisque vous signalez deux grèves, se tend sérieusement dans les maisons d'édition que vous citez.
Effectivement, cela faisait très longtemps que l'on n'avait pas vu autant d'inquiétudes, de grognes et de mouvements sociaux dans l'édition. Dans un marché à tonnes qui n'est guère flamboyant, le secteur de l'édition a baissé d'un petit pourcent en valeur l'an dernier. Les principaux acteurs essaient par tous les moyens d'améliorer leurs résultats. Martine Prosper, la secrétaire générale de la CFDT Édition, me confiait s'inquiéter de la brutalisation du dialogue social à l'œuvre actuellement dans l'édition, ce qui passe à ses yeux par des rappels à l'ordre pour entamer des négociations annuelles obligatoires sur les salaires ou des réunions plus tendues que jamais entre les représentants syndicaux et la direction. Pour tenter de calmer le jeu, au lendemain de la publication des résultats d'Hachette Livre, Arnaud Lagardère, le PDG du groupe Lagardère, a envoyé vendredi 14 février un message à tous les salariés en les félicitant. « Notre groupe ne s'est jamais aussi bien porté », leur a-t-il écrit, mais sans rien lâcher sur leurs demandes.
À suivre, j'ai envie de dire, Nicole Vulzer. L'économie du livre, c'est à réécouter votre chronique sur franceculture.fr. On a parlé de la rythmique dans vos textes, dans votre langue, à toutes les deux, Aurélie Folia et Elsa Eskenazi. Le book club se termine tous les jours par un grand jeu. On cherche de la musique dans les textes. Je rappelle le principe de ce jeu. Nos auditeurs, auditrices découvrent l'évocation d'un air musical dans un livre qu'ils sont en train de lire. Ils font une photo et nous l'envoient ou bien par mail, lebookclub@radiofrance.com, ou bien ils écrivent à Alex, qui anime le compte et la communauté des lecteurs de France Culture via le compte Instagram du book club. C'est Catel qui joue avec nous aujourd'hui. Elle nous a écrit via le mail du book club et elle a choisi un extrait d'un livre qui s'appelle « Écoutez les sirènes ». C'est signé Fabrice Melchiot et c'est paru aux éditions Actes Sud. Ma mère vient d'avoir 19 ans. Elle habite son grenier sur les bords du fleuve Saint-Laurent avec des amis de passage, des amis d'amis de passage, squatteurs patentés, losers à l'allure folle, jeune marquis français échappé de sa lignée et qui se peint les ongles en jaune, admirateur à bout de souffle. Elle vient de quitter un sculpteur aux cheveux longs, le tombeur de Montréal, tombé. Des heures durant, elle danse sur les rives du Saint-Laurent, elle achète des bougies, elle traîne en terrasse, lit de la poésie beatnik, ça la remplit. Elle croise des dizaines de poètes du dimanche qui lui garantissent tous qu'il voit dans son regard, mieux que quiconque, l'infinie tristesse des anges. Ça la vide. Leonard Cohen a 10 ans de plus qu'elle. Quand elle le rencontre, c'est un poète bardé de bonnes intentions qui commence à avoir un semblant de reconnaissance. Il a déjà publié 2 recueils, a déjà fait de la musique 10 ans auparavant avec son groupe The Boxing Boys. Mais il se rêve écrivain indiscutable, poète émérite. Il a voyagé dans toute l'Europe pour y chercher l'inspiration. Sur l'île grecque d'Hydra, il a rencontré une jeune Norvégienne dans une épicerie par hasard. Il devait acheter des olives noires et elle du savon au lait de chèvre, qu'est-ce que j'en sais. C'est la femme de l'écrivain Axel Jensen. Mais Cohen l'ensorcelle. Marianne Hélène devient l'une de ses muses. C'est pour elle qu'il écrira « So long, Marianne ». Little darling, I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long. Merci beaucoup Elsa Eskenazi d'avoir été avec nous pour parler de votre livre Revivre, paru aux éditions du Bunker. Merci beaucoup Aurélie Folia d'avoir été avec nous pour parler de Homme, paru aux éditions Lanskin. J'espère que tout le monde a envie d'aller voir une scène ouverte de poésie ce soir, ou demain, ou jeudi, ou samedi. Au son, c'était Marie-Claire Oumabadi, à la réalisation Vivien Demeyer. Merci à toute l'équipe du Book Club, et particulièrement à Cyril Marchand, qu'on embrasse.